Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le premier volet de notre série consacrée aux stratégies des partis d'extrême droite en Europe à l'approche des élections européennes du mois de juin. Nous évoquerons demain le Fidesz hongrois à la tête du camp souverainiste au sein de l'Union européenne. Mercredi, le PVV de Geert Wilders au pouvoir aux Pays-Bas. Jeudi, des démocrates de Suède qui coopèrent avec la coalition en place. Aujourd'hui, un parti qui ne donne que dans la surenchère et ne cherche pas à se dédiaboliser, comme on dit, Alternative für Deutschland, l'AFD, en Allemagne.
Tous les autres partis, qui sont en réalité un cartel, sont favorables à plus d'Union européenne, plus d'énergie renouvelable et plus de migration. C'est pour cette raison que nous sommes la seule force d'opposition digne de ce nom dans ce pays.
Si nous ne mettons pas fin à l'immigration, il n'y aura plus du tout d'Europe. Je voudrais citer ce proverbe allemand qui dit « Si vous autorisez la moitié des habitants de Calcutta à immigrer, vous ne sauvez pas Calcutta, mais vous devenez une deuxième Calcutta ». La DASH fonctionne encore mieux avec l'Afrique, évidemment. Mais en tout cas, nous devons mettre fin à cette situation. Nous devons y mettre fin tout de suite, et même parler de remigration.
Je pense simplement à notre histoire et au fait qu'elle ne doit jamais se reproduire. Il ne faut pas que des nazis, des gens d'extrême droite ou des fascistes accèdent au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Or, nous sommes sur une mauvaise pente en ce moment.
En Allemagne, il y a encore, et les grandes manifestations de janvier et février le prouvent, il y a encore des centaines de milliers d'Allemands qui pensent qu'une victoire de l'AFD Alternative für Deutschland serait une catastrophe pour le pays et pour l'Europe entière. Il y a aussi l'inverse, tous ceux qui pensent que l'humain est une tentation impossible, comme le disait Romain Gary, de ceux qui avaient accepté la victoire du Parti National Socialiste comme allant de soi dans les années 30, tous ceux qui étaient trop installés dans leurs meubles, écrivait-il, et qui pensaient que c'est être sage que de consentir au cours des choses. Dans une réunion secrète tenue à Potsdam en novembre, des cadres de l'AFD ont discuté d'un plan de remigration massive. Le site d'investigation Correctif parle de 2 millions de personnes renvoyées d'Allemagne vers l'Afrique du Nord, y compris des Allemands qui ont aidé les réfugiés à se nourrir, à réaliser leurs démarches administratives. Si le parti réfute les termes de ce projet, les révélations de ce rendez-vous l'ont immédiatement fait chuter dans les sondages. À 3 mois des élections européennes, l'AFD peut néanmoins toujours compter sur 20% d'intention de vote, jusqu'à 30% dans les Länder de l'Est. Alors parmi ces cadres de l'AFD présents à Potsdam, certains figurent sur ces listes aux européennes et comptent bien gagner des sièges dans le groupe parlementaire qui comprend aussi le Rassemblement National, quand bien même leurs stratégies respectives ne sont pas les mêmes. Au programme, en revanche, une volonté commune de détruire l'Europe telle qu'elle existe pour en reconstruire une autre. Alors comment l'AFD, créée en 2013 en réaction au dogme eurolibérale d'Angela Merkel, est-elle devenue un parti assumant des thèses néo-nazies ? À l'approche des élections européennes, quelle part de responsabilité impute-t-elle à Bruxelles dans les difficultés rencontrées par les Allemands ? Nous en parlons ce matin avec deux invités. Bonjour Valérie Dubslaff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation allemande à Rennes 2. Vous êtes spécialiste de l'extrême droite et vous êtes en duplex depuis France Bleu Armorique à Rennes. Bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de civilisation allemande à Sorbonne Sorbonne Université, conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, et vous venez de coordonner avec Jérôme Vaillant un dossier spécial sur l'AFD à paraître là dans les prochains jours dans la revue L'Allemagne aujourd'hui. Alors, avant d'évoquer les élections européennes, la façon dont l'AFD s'inscrit dans ce scrutin, l'Europe qu'elle veut voir advenir, racontez-nous, Hans Stark, ce qu'a révélé le site d'investigation corrective en janvier, cette réunion secrète de responsables d'AFD dans un hôtel de Potsdam. Est-ce qu'on sait qui était présent déjà ?
Alors, étaient présents à cette réunion dite secrète des acteurs de l'AFD, mais aussi des sympathisants venant de l'aile la plus conservatrice de la CDU, et en particulier des représentants du courant identitaire autrichien, donc qui sont proches du FPÖ, donc l'équivalent autrichien de l'AFD en Allemagne.
Martin Sellner, c'est le fondateur
Martin
du mouvement Sellner, des
exactement,
identitaires d'Autriche.
Qui navigue en permanence entre l'Allemagne et l'Autriche et qui joue un rôle important dans les milieux identitaires en Allemagne et qui, de ce point de vue-là, prône une politique de rémigration massive.
Ça, une politique de remigration massive, aujourd'hui, certains contestent au sein de l'AFD que ce mot a été employé. Néanmoins, il l'a déjà été officiellement. Peut-être d'abord, toujours sur cette rencontre, on sait un petit peu plus en détail qui de l'AFD a participé à cette réunion. Il y avait Roland Hartwig, un ancien député, proche conseiller de la présidente de l'AFD, Alice Weidel, qui depuis a été limogé. Lui, Roland Hartwig, a été limogé. Ulrich Siegmund, chef de file des députés AFD au Parlement de Sachsen-Anhalt, donc dans l'Est. Et vous disiez, Hans Stark, aussi, certains membres de la CDU, donc le parti conservateur de droite, le parti d'Angela Merkel, pour le dire vite, étaient également, certains étaient présents, mais
alors,
qui ?
Ce sont des gens qui étaient plutôt proches d'un complément de la CDU, d'une partie de la CDU la plus conservatrice et qui sont en train de former un parti qui s'appelle aujourd'hui l'Union des Valeurs, la Verte Union. Donc c'est un parti qui est qui divorce avec la CDU. Donc je veux bien insister sur le fait que ce n'est pas la CDU elle-même. Le parti donc de Monsieur Merz qui était présent à cette réunion, mais plutôt des dissidents chrétiens-démocrates qui aujourd'hui se tournent vers un parti qui pourrait faire la jonction, le pont entre l'AFD et les conservateurs les plus nationalistes du côté de chrétiens-démocrates, ce qui, on en parlera ici, de toute façon, à mon avis, une illusion.
Alors, sur cette réunion, encore un mot, Valérie Dubslav, puisqu'il a été question d'un projet d'expulsion à grande échelle visant des Allemands d'origine étrangère. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Correctif. Alors, je ne sais pas comment il a eu ces informations, s'il a fait en sorte d'avoir infiltré la réunion ou s'il a eu des sources qui étaient présentes sur place, mais qui dit qu'ont été évoquées, par exemple, des lois sur mesure pour mettre sous forte pression les citoyens allemands non assimilés. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet ? Est-ce que, d'ailleurs, c'était un débat d'idées ou plutôt la présentation d'un plan d'action politique pour les années à venir ?
Mais il me semble que c'était un peu les deux. C'était une rencontre informelle avec un débat informel, mais fondé sur un plan qui était très clair, qui avait été élaboré en amont par Martin Sellner, dont il a été question tout à l'heure, qui est la figure de proue des identitaires autrichiens. Et lui, il parle bien de remigration, qui est un euphémisme, hein, pour dire, comme vous l'avez dit, expulsion massive de personnes considérées comme non-allemandes. Alors, ça peut être des demandeurs d'asile, par exemple, mais ça peut être également des personnes issues de l'immigration qui ont un passeport allemand, qui ont la nationalité allemande. Et ça peut être aussi des gens, des Allemands qui ont aidé des étrangers, qui les aident toujours, ça peut être des opposants politiques, ça peut être des journalistes, etc. Donc c'est vraiment très large comme spectre. Et ça peut concerner des millions de personnes quand on sait qu'en Allemagne, actuellement, 28% de la population est issue de l'immigration. Donc c'est pour ça que ça a généré aussi cette onde de choc, parce que c'est énorme.
Onde de choc que l'AFD a souhaité ensuite apaiser, entre guillemets, et on a entendu beaucoup de membres de l'AFD nier, non pas qu'ils avaient participé à cette réunion, mais les termes qui avaient été employés à ce moment-là.
Ici, nous sommes devant le Landhaus Adler. C'est dans cet hôtel que nous avons tenu la réunion qui a tant fait scandale. Certains médias allemands ont dit que nous avions parlé d'expulser des citoyens allemands. C'est totalement absurde. Nous ne sommes pas contre l'immigration ou contre les étrangers, c'est ridicule. Tout ce que nous voulons, c'est réglementer l'immigration et qu'elle soit utile à notre pays. Des gens ont comparé cette réunion à un rassemblement nazi. C'est une comparaison odieuse qui se moque de la mémoire des victimes du nazisme et ça ne représente en rien nos valeurs.
Alors Tim Krause, porte-parole de l'AFD dans le Brandebourg, ici interrogé par France 5, Valérie Dubslav, lui, nie avoir employé ce terme de remigration, euphémisme disiez-vous, mais qui a été déjà employé à plusieurs reprises par des officiels de l'AFD et publiquement, en public, dans des réunions.
Absolument, parce que c'est la stratégie aussi d'utiliser souvent les mêmes termes pour les normaliser et les banaliser. Et remigration apparaît, par exemple, dans une première version du programme pour l'Europe. Il y a le terme remigration dans le programme de l'AFD. Donc, ils utilisent ce terme. Donc, c'est faux de dire qu'ils ne le font pas.
Au congrès de l'AFD l'été dernier, en Sachsenhalt, Irmild Bosdorf aussi avait parlé de remigration à la tribune. Il est aujourd'hui en 9e place sur la liste de l'AFD pour les élections européennes. Sur Anstark, on a beaucoup aussi commenté le choix de Potsdam pour cette réunion. Est-ce qu'il était, d'après les informations du site d'investigation corrective, un choix symbolique? Est-ce que les organisateurs de la réunion ont dit avoir convoqué cette réunion tout exprès à quelques encablures de Wannsee, où s'est tenue en 1942 la réunion qui a préparé la solution finale, ou c'est aussi, d'après eux, une interprétation, une coïncidence?
Je pense que c'est plutôt quand même une coïncidence, parce qu'ils ne vont pas, entre guillemets, commettre une erreur presque suicidaire, hein, en utilisant un endroit qui serait assimilé à Wannsee, mais à la conférence de Wannsee, qui donc instaure la solution finale pour les populations juives d'Allemagne, donc qui seront ensuite déportées vers les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il va de soi que rien que ce programme et l'ampleur des personnes, enfin du nombre de personnes concernées, Valérie Dubslav nous rappelait que c'est des millions de personnes, rappelle évidemment les déportations des populations juives vers les camps de concentration. Et c'est dans cela que ça a été un choc vraiment très très important, et qui a suscité d'ailleurs autant de manifestations qui se poursuivent d'ailleurs, encore maintenant depuis le mois de novembre, ça fait plusieurs mois. Ceci dit, Valérie Dubslav l'a souligné, le terme rémigration est inclus dans le programme de l'AFD, et en fait c'est aussi quelque part le complément presque logique de la thèse du grand remplacement que professe l'extrême droite en Europe, et y compris en Allemagne, bien entendu. Le grand remplacement, ça veut dire que on remplace une société qui est sur place par des immigrés. Et c'est exactement la même thèse que défend d'ailleurs Éric Zemmour en France et son parti Reconquête. Et je pense aussi que le programme, enfin la politique de remigration, même si elle n'est pas chiffrée, fait partie des propositions qui sont prévues dans le programme de Reconquête. Donc là, on n'est pas dans une spécificité AFD. Je dis pas ça pour entre guillemets minimiser la part de responsabilité de l'AFD, elle est absolument écrasante, mais on est dans une logique d'extrême droite européenne. Qui se bat, ou qui se bat peut-être contre des ailes de moulin, je n'en sais rien, mais en tout cas qui met en avant ce risque de transformation des sociétés européennes, et qui veut donc mettre un frein à cela, voire renverser la tendance.
Maximilian Krah, d'ailleurs, la tête de liste de l'AFD pour les européennes, il avait appelé à voter pour Éric Zemmour et non pour Marine Le Pen à la présidentielle française, ce qui avait causé d'ailleurs des débats au sein de l'extrême droite européenne, puisque AFD et Rassemblement National font partie du même groupe au Parlement européen. Alors, on disait, Valérie Dubslav, les mots qui sont employés, la remigration, cette question évoquée par Hans Stark du grand remplacement, alors allons-y, employons les mots, nommons les choses. Il est question à l'AFD de xénophobie, d'islamophobie. Il est écrit dans leur parti que les musulmans n'appartiennent pas à l'Allemagne. Est-ce qu'il est aussi ouvertement question d'antisémitisme?
Alors la question de l'antisémitisme est plus compliquée. Alors oui, bien sûr, il y a de l'antisémitisme dans l'extrême droite, mais là, on le voit très bien dans le conflit entre Israël et Hamas. L'AFD défend plutôt Israël contre le Hamas, parce que l'islamophobie est plus importante que l'antisémitisme, parce que ça marche mieux aussi électoralement.
Est-ce que les membres de l'AFD, en particulier ceux qui étaient dans cette réunion de novembre à Potsdam, se revendiquent allemands de sang? Alors l'Allemagne a adopté le droit du sol en 2000, mais est-ce que eux se revendiquent allemands de sang? Est-ce qu'il y a un discours racialiste aujourd'hui à l'AFD sur l'identité allemande?
Absolument, mais surtout pour les adeptes de Höcke, qui est le représentant de l'aile la plus radicale de l'AFD, il y a très clairement un langage qui est nazi, qui est emprunté aux nazis, et donc il y a aussi l'idéologie qui vient de là. Et donc, effectivement, on se considère allemand de souche, allemand de sang, effectivement, contre ceux qui seraient les Allemands de passeport, qui ne seraient pas les vrais Allemands.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, nous avons en Allemagne aujourd'hui, au sein de l'AFD, par le biais de ses représentants les plus importants pour les élections européennes, donc Maximilien Krah, et pour la Thuringe, où va candidater Björn Höcke, qui est le chef de l'AFD en Thuringe, et à vrai dire, le chef de file inofficiel de l'AFD à l'échelle nationale, à l'échelle allemande.
C'est vrai qu'il n'a pas de mandat officiel à l'AFD comme cadre dirigeant.
Il joue un peu le rôle de Kaczynski en Pologne, en réalité. Donc, il tire les ficelles dans les coulisses, mais c'est évidemment l'étoile montante. C'est une mauvaise comparaison. Je ne voulais évidemment pas parler de l'étoile jaune, pardonnez-moi. Donc, c'est quand même la figure de proue qui monte, qui émerge sur la scène d'extrême droite en Allemagne et qui pourra, le moment venu, prendre vraiment le leadership de ce parti. On n'y est pas encore, mais c'est en train de se faire. Et donc, à la fois Höcke et Krah formalisent une idéologie qui est Völkisch, donc une idéologie qui est basée sur l'ethnicité des Allemands de souche et leur spécificité, donc ce qui veut dire que une personne immigrée, devenue allemande, ou née allemand le droit du sol, ne peut pas être allemand parce que ceci et cela, parce que sa couleur de peau, parce que sa religion ne correspond pas à l'idéologie ethnique völkisch, parce que ça se traduit mal en réalité, de l'AFD.
Völkisch, donc du mot folk,
du mot peuple allemand.
Voilà, c'est un terme qui a été utilisé, mobilisé par les théoriciens du nationalisme au 19e siècle, repris par le Troisième Reich et qu'on entend aujourd'hui dans la bouche des cadres de l'AFD et des militants. Alors, après ces révélations sur la réunion de Potsdam, et de toute façon, après les mots employés à cette réunion dite secrète, de grandes manifestations ont eu lieu dans tout le pays, et des gens pour dire qu'ils ne voulaient pas de cette extrême droite.
L'Allemagne subit un énorme glissement vers la droite, comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Et je ne pense pas que la situation ait jamais été aussi mauvaise depuis la guerre.
Je pense que pour beaucoup de gens, cela a montré une fois de plus, et peut-être rendu plus clair pour beaucoup, ce que l'AFD fait réellement, ce dont beaucoup de gens n'étaient peut-être pas conscients auparavant.
Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues d'Allemagne ces jours-ci pour défendre notre démocratie et s'opposer à l'extrémisme de droite. Je le dis très clairement et sans détour. Les extrémistes de droite s'attaquent à notre démocratie. Ils veulent détruire notre cohésion.
Des manifestants, puis le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz. Alors on parle de 2 à 3 millions d'Allemands descendus dans les rues. Où, Valérie Dubslav, est-ce que c'était surtout à Berlin, les grandes villes, ou aussi dans les bastions de l'AFD ?
Alors non, justement, c'est le côté inédit de la chose. Depuis 1989, jamais autant de monde était descendu dans la rue et justement dans les grandes villes, alors beaucoup à Hambourg, à Munich, à Berlin, mais aussi dans les petits patelins de l'Ouest comme de l'Est. Donc c'était vraiment un mouvement général parce que voilà, c'est cette onde de choc dont je parlais tout à l'heure, elle était vraiment très très impressionnante. Jusqu'à là, on avait l'impression que la majorité silencieuse, la société allemande, assistait de manière un peu démunie à cette montée de l'extrême droite. Et donc il y a eu après la révélation, et donc là c'était plus possible. C'était vraiment la goutte de trop. Et donc, ce qui a favorisé cette descente dans la rue des gens pour manifester contre l'extrême droite et pour une société ouverte, pour les valeurs libérales, pour la démocratie. Donc, c'était vraiment un moment très important. Et qui est fondé, effectivement, comme l'a dit Hans Stark, sur l'enseignement de l'histoire. C'est un peu le spectre de Weimar, là, qui revient, parce que la République de Weimar a été détruite de l'intérieur par l'extrême droite dès la fin des années 20. Et donc, on veut éviter un second Weimar. Et donc, c'est pourquoi un des slogans de ces manifestations était aussi le Nie wieder, plus jamais ça, à savoir plus jamais de nazisme, plus jamais d'Holocauste, plus jamais de guerre. Et donc, il faut, dès les débuts, essayer d'enrayer cette dynamique, cette montée de l'extrême droite.
L'AFD qui, immédiatement, après les révélations du site d'investigation Hans Stark, a perdu 3 à 5 points dans les intentions de vote, avec la question qui est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il y a de quoi là stopper, d'après vous, l'ascension d'un parti qui ne fait que augmenter dans les sondages depuis sa création en 2013?
Il faut l'espérer. Ils ont fait quand même un... Enfin, d'abord, c'est un parti très jeune. Donc, il a été fondé en 2013 et qu'il soit déjà à plus de 20% dans les sondages en 2023-2024, c'est déjà une surprise, une mauvaise surprise, mais c'est une surprise et c'est évidemment un succès pour ce parti. Ensuite, évidemment, la situation aujourd'hui n'est absolument pas comparable avec la fin de Weimar. On n'est pas dans la crise économique des années 20, de la fin des années 20, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas dans une situation géopolitique de celle du traité de Versailles, avec des frontières contestées, notamment en Europe de l'Est. Donc, on n'est absolument pas dans cette situation-là. Enfin, on n'est pas non plus dans la situation où revient du front une génération, meurtrie de soldats qui ne sait pas où placer la violence, innée qu'elle a subie dans les tranchées. On est aujourd'hui en Allemagne plutôt dans une société vieillissante et malgré tout dans l'ensemble très prospère. La situation est très très différente.
Donc, c'est difficile d'établir des comparaisons.
On ne peut pas. En plus, Weimar, c'est une contestation totale du système démocratique et ça dès 1919, excusez-moi, alors que 1949, à nos jours, je veux dire, la démocratie est pleinement et heureusement et encore heureux, si j'ose dire, acceptée, respectée par les Allemands. Donc le contexte n'est pas du tout le même. Enfin, l'AfD ne peut pas arriver au pouvoir avec le système électoral que nous avons en Allemagne sans un soutien, sans une coalition. Nous avons un système proportionnel, même s'ils font 22%, ce qui serait inouï, ils peuvent avoir une capacité de blocage au niveau de la formation d'une coalition gouvernementale majoritaire contre l'AfD, mais ils peuvent absolument pas arriver au pouvoir. Alors que les systèmes les pays qui ont des systèmes majoritaires comme la France peuvent très bien, avec une réussite de 30% d'un parti aux élections législatives, avoir ce même parti devenir majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes dans une perspective de prise de pouvoir du Rassemblement national en France, qui est beaucoup plus menaçante pour la France que l'AfD pour l'Allemagne. Je voudrais quand même relativiser cela. Ensuite, il y a un deuxième aspect. C'est que ce parti AfD est très fort dans les nouveaux Länder, où il y aura des élections régionales en automne.
En septembre,
exactement. Et là, ils sont à 30% dans les sondages, avec 30%, toujours pas de possibilité d'arriver au pouvoir, à moins qu'il soit toléré ou dans le cadre d'une coalition. Mais il peut y avoir une situation de blocage total, et ce sera probablement la situation en Thuringe, parce que 30% de l'AfD oblige tous les autres États de se coaliser autour de l'AfD et contre l'AfD, ce qui veut dire que la CDU, par exemple, devrait accepter une coalition avec l'extrême-gauche pour gouverner contre l'AfD, ce que la CDU ne voudra pas. Bref, on est dans une situation, et là, ça rappelle malgré tout, et c'est le contraire de ce que j'ai dit au début, Weimar, dans le sens que l'Allemagne risque d'être un peu bloquée.
Alors, avant ces élections locales qui seront très importantes pour l'AfD en septembre, il y a les élections européennes du mois de juin et l'Office fédéral de protection de la Constitution, ce sont les services de renseignement intérieur, c'est un garde-fou qui a été mis en place après le Troisième Reich, après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cet Office fédéral de protection de la Constitution a dit, écrit noir sur blanc après la réunion de Potsdam dont on parlait tout à l'heure, il est clair que des personnes qui se sont fait remarquer par des positions incompatibles avec notre ordre fondamental feront partie de la délégation de l'AfD au prochain Parlement européen. Si on regarde, Valérie Dubslaff, la liste de l'AfD pour les élections du mois de juin, que dit-elle de la stratégie européenne d'Alternative für Deutschland? Est-ce qu'elle veut y envoyer ses plus radicaux? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de la tête de liste, Maximilian Krah, dont on parlait tout à l'heure?
Alors oui, effectivement, sur la liste figurent surtout des personnages, enfin les figures les plus radicales quand même de l'AfD. Et vous l'avez dit, Maximilian Krah, qui est la tête de liste, est lui connu pour être un proche de Björn Höcke. Il est issu de la fédération de Saxe, me semble-t-il. Et ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est avocat d'affaires. Il a 8 enfants de 3 unions différentes. Il est fervent catholique. Et c'est un ancien transfuge de la CDU, donc on peut peut-être le dire aussi. et qui est connu pour ses positions racistes, climato-sceptiques, anti-migrants, etc. Il est très anti-EVG, etc. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il a soutenu effectivement Éric Zemmour pendant les présidentielles.
Donc, raciste, anti-EVG, climato-sceptique, il est connu comme avocat pour avoir, par exemple, même s'il est avocat d'affaires, il a aussi défendu des jeunes activistes qui avaient attaché un Irakien à un arbre, selon les mots du procès que j'ai pu lire. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'avait donné ce procès à l'époque, mais par ailleurs, on comprend bien qu'en Allemagne, Anstar, qu'il n'est pas question de stratégie de dédiabolisation. Comment compte-t-il travailler ces peut-être futurs parlementaires européens de l'AFD avec les autres partis d'extrême droite? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les oppose? Si Maximilian Krah a plutôt soutenu Éric Zemmour jusqu'à présent, comment compte-t-il travailler avec Marine Le Pen et le Rassemblement National, par exemple?
Ah ben ça, c'est d'abord un problème pour Marine Le Pen, et c'est une véritable épine dans son pied, parce que...
Elle a essayé de prendre ses distances, mais elle a néanmoins déjeuné plusieurs...
Ses distances parce qu'elle est très gênée, parce qu'elle dit qu'elle n'adhère pas au programme de rémigration. Elle a demandé par écrit en plus des explications à Lise Weidel, ce qui était quand même très humiliant pour Madame Weidel, d'autant que une fois que Weidel a écrit sa petite lettre, Marine Le Pen a insisté sur le fait que pour elle que c'était pas suffisant. Donc on est quand même dans une situation de divorce à l'intérieur du groupe européen, du Parlement européen Identité et Démocratie, au sein duquel se trouve le Vlaams-Belang de la Belgique, les vrais Finnois, mais les vrais Finnois qui sont plutôt pro-otaniens face à la menace russe, donc ils vont se méfier d'une sortie de l'Alliance Atlantique que préconise par exemple l'AFD.
Ça c'est très nouveau, l'AFD préconise en effet une sortie.
Les vrais Finnois, s'ils deviennent pro russes, ils se feront politiquement harakiri, hein, donc ils ne peuvent pas du tout se permettre pareil écart. Donc ce groupe est extrêmement hétérogène, et nous avons à l'intérieur de ce groupe donc le Rassemblement National, qui d'un côté se dit républicain et qui veut prendre le pouvoir et qui poursuit une politique de dédiabolisation et de normalisation, mais qui en même temps fait des coalitions avec des partis extrémistes partout en Europe. Donc pour Le Pen, c'est peut-être le moment venu de entre guillemets d'afficher sa couleur politique. C'est un test de crédibilité de discours républicain de Marine Le Pen. Elle ne peut pas être considérée comme étant normal et faisant partie du spectre républicain français si elle continue à avoir une relation avec l'AFD, une relation structurée à l'intérieur d'un groupe européen. Mais elle ne peut pas non plus faire venir son parti dans le groupe des conservateurs européens, des réformistes, au sein duquel il y a par exemple les Polonais, mais aussi donc justement Reconquête. Donc c'est le deuxième groupe a priori moins extrémiste, mais dans les faits, c'est pareil, au sein du Parlement européen, puisqu'il y a à l'intérieur, tout cela, il y a Zemmour et il y a sa nièce. Hein, donc, elle est, de ce point de vue-là, extrêmement gênée.
Est-ce que l'abandon pour ces Européennes, l'abandon officiel, Valérie Dubslav, d'une campagne sur le Dexit, donc la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, est-ce que c'est une forme de concession aux autres partis d'extrême droite européens qui siègent dans ce groupe, puisque le RN parle plutôt de communauté économique et d'intérêt européen, mais de ne pas sortir de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que par ailleurs, Alice Weidel, la patronne de l'AFD, a réemployé ce terme de Dexit dans le Financial Times en janvier.
Alors oui, effectivement, le Dexit a fait longtemps partie du programme de l'AFD pour l'Europe, donc une sortie de l'Allemagne de l'Europe, de l'Union européenne. Mais alors c'est peut-être une concession faite aux autres formations d'extrême droite, mais c'est aussi une concession faite aux économistes qui ont montré dans des études que ce serait absolument désastreux pour l'économie allemande si l'Allemagne quittait l'Europe. Donc c'est plutôt une forme de réel politique, enfin de pragmatisme politique qui fait que on va pas faire trop peur aux électeurs non plus. Donc on va rester dans l'Europe, mais on essaye simplement de l'intérieur de démanteler l'Europe et de la transformer et éventuellement de fonder une nouvelle communauté économique dont on ne connaît absolument pas les contours actuellement.
Donc démanteler l'Europe, il s'agit par exemple de la fin de l'espace Schengen, le retour des contrôles aux frontières nationales, la dissolution du Parlement européen, puisque l'AFD voudrait que la compétence législative européenne revienne au Conseil européen, donc l'institution qui représente les chefs d'État membres. Anstar, vous vouliez réagir à ce que disait Valérie Dubslav?
Oui, juste un complément. D'un point de vue économique, pour l'Allemagne, la sortie de l'Union européenne, c'est une catastrophe.
C'est quoi, les exportations, en fait, qui sont majoritairement...
Non seulement d'un point de vue géopolitique, de toute façon, d'un point de vue politique tout court, mais ne serait-ce que du point de vue économique. ne serait-ce que de ce point de vue-là. L'Allemagne est un pays qui exporte toujours beaucoup, même si les excédents commerciaux ont baissé depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine, donc depuis 2022. L'Allemagne a toujours des excédents commerciaux d'une centaine de milliards d'euros par an. Ce qui est beaucoup. Et il fait 60% de son commerce extérieur avec les pays de l'Union européenne. Donc sortir de l'Union serait suicidaire d'un point de vue économique. Je ne parle pas de tout le reste, évidemment. Rien que du point de vue économique. Ceci dit, les ténors de l'AFD ont compris la chose. Alors il y a des grosses bêtises dans le programme européen de l'AFD parce qu'ils disent qu'en sortant par exemple de l'Union économique et monétaire, ça sera formidable parce qu'on va adopter le Deutsche Mark et le Deutsche Mark va être une monnaie très très forte et grâce à la force du Deutsche Mark, on va avoir des importations pour moins cher. Oui, mais les exportations vont baisser à partir de ce moment-là si on a une monnaie trop forte. Donc ça, c'est la première bêtise. Mais ils complètent, et c'est ce que je voulais souligner, ils complètent leur vision des choses en préconisant dans leur programme européen une adhésion de l'Allemagne à la communauté économique eurasienne. Et c'est là qu'on trouve la filiation pro-russe et pro-chinoise de l'AFD, c'est-à-dire en échange l'Union européenne contre un rattachement de l'Allemagne à la Russie, enfin à l'espace économique eurasien, donc Russie plus Asie centrale, et la Chine à travers un statut d'observation que l'AFD veut obtenir dans l'Organisation pour la coopération de Shanghai, qui est une structure économique russo-chinoise à laquelle appartiennent les pays d'Europe, d'Asie centrale et comme observateurs, certains pays arabes et la Turquie par ailleurs. Donc ça veut dire que l'AFD développe maintenant ce fantasme-là, à savoir on bascule de l'ouest vers l'est. Et avec ça, ils essaient évidemment d'attirer les intérêts des entrepreneurs en disant que, bah, écoutez, on va peut-être perdre les marchés à l'ouest, mais pour ça, c'est pas grave, on aura du gaz pour pas cher et on aura toujours le marché chinois.
Donc une rupture totale avec 70 ans de politique étrangère allemande d'ouverture sur l'ouest mise en place.
Absolument.
Sous Adenauer, avec donc toutes les réticences que cette position peut rencontrer au sein même du groupe Identité et Démocratie, groupe d'extrême droite au Parlement européen, vous le disiez tout à l'heure. Jusqu'où l'AFD est-elle ou est-il ce parti pro-russe, Valérie Dubslav, comme on le définit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces dirigeants rencontrent encore aujourd'hui des officiels russes depuis le début de la guerre en Ukraine? Dans quelle mesure? Pour discuter de quoi? Qu'est-ce qu'on en sait?
Alors, ils font plutôt profil bas, là, actuellement. On essaye de pas trop se montrer proche des Russes officiellement, mais il est évident que dans la propagande, par exemple, on va être pour la fin en Ukraine. C'est-à-dire que... La fin de la guerre en Ukraine, pardon.
Excusez-moi. Je vous en prie.
Donc, effectivement...
Ça revient au même.
Oui, ça revient un peu au même, effectivement. C'est-à-dire que actuellement l'AFD, d'ailleurs, quand vous allez sur le site internet de l'AFD, vous avez le slogan actuel qui est « plus de diplomates, moins d'armes ». Et donc, c'est très clair, on veut une initiative de paix, on veut lancer les négociations, cesser le feu tout de suite, et ça veut dire, en gros, relayer quand même la propagande du Kremlin. Donc, on relaie les intérêts de la Russie contre l'OTAN. Donc, l'AFD est très clair là-dessus.
Peut-être sur les liens plus directs entre l'AFD et la Russie, il se trouve qu'avant les élections 2017 du Bundestag, l'administration russe avait décrit, enfin on avait retrouvé des documents de l'administration russe qui décrivait un candidat de l'AFD allemand, donc Markus Fronmeier, qui avait 27 ans à l'époque. On en parlait comme d'un député sous contrôle absolu. C'était une candidature qu'on a su par la suite soutenue par la Russie. Comment, qu'est-ce qui a été avéré, établi et surtout qu'est-il devenu ce Markus Fronmeier Hans Stark?
Alors, je peux pas vous dire ce que ce monsieur est devenu, mais la force est tout simplement de constater que depuis 2014, un nombre important de ténors de l'AFD se sont rendus en Russie, en Crimée aussi, et ont soutenu la politique d'agression russe et ont pratiquement, dans les faits, reconnu l'annexion russe de la Crimée en 2014. Et donc, tout ce qu'ils disent à propos de la Russie va dans le sens d'une acceptation de la politique de Vladimir Poutine, voire d'un soutien à ce dernier. Ils sont actuellement, en effet, comme dit Valérie Dubslav, un peu gênés, puisqu'ils ont sur leur gauche, aujourd'hui, une concurrence qui émane de Zahra Wagenknecht, dont on va parler, je pense, un peu plus tard.
Et Zahra Wagenknecht,
qui est une ancienne figure de proue du parti des Links, donc la gauche extrême, a fondé son propre parti sur la base d'un pacifisme redynamisée et Wagenknecht mène campagne donc en faveur de la fin de la guerre en Ukraine, mais aux conditions intrinsèquement russe, ce qui veut dire, comme disait le pape hier, c'est-à-dire Madame Wagenknecht est en faveur pour que les Ukrainiens hissent le drapeau blanc.
En tout cas, on va en parler de ce parti avec Patrick Moreau dans notre focus en fin d'émission tout à l'heure. Peut-être un mot encore sur qui sont les électeurs de l'AFD. Vous avez commencé à évoquer, non pas le portrait robot, ce serait absurde, de l'électeur de l'AFD, mais dire que ces électeurs étaient très souvent des hommes, souvent en Allemagne de l'Est, mais est-ce qu'il s'agit d'un vote de conviction, Valérie Dubslaff, ou d'un rejet des autres partis politiques? Cette question récurrente quand on parle aujourd'hui de l'extrême droite, et surtout pour un parti aussi récent que l'AFD, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Si adhésion il y a, c'est adhésion à quoi? Est-ce qu'il y a un programme clair de l'AFD?
Alors oui, effectivement, je pense que l'AFD arrive à toujours faire figure de visage de la contestation, de la protestation contre le gouvernement en place, qui est un gouvernement de gauche, de centre-gauche. Donc, effectivement, c'est la figure du vote contestataire, mais ça ne veut pas dire que tous les électeurs sont qu'ils ont juste un vote de contestation ou de protestation. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'un certain nombre d'électeurs savent très bien pour qui ils votent, et donc c'est un vote qui est assumé aussi. Donc c'est vraiment un vote d'adhésion, je pense. Et sinon, quand on regarde un peu la sociologie du vote, on voit que ça transcende toutes les catégories sociales. Alors peut-être avec un peu plus dans les classes inférieures qui sont surreprésentées, notamment des chômeurs, et les classes moyennes aussi. Et puis en termes de genre, vous l'avez dit, 2/3 des électeurs sont des hommes, 1/3 seulement de femmes, parce que les femmes se sentent peut-être moins concernées par le programme qui reste extrêmement traditionnel en termes de genre. Mais donc voilà, c'est un parti qui surfe sur le mécontentement, qui surfe beaucoup sur les crises. C'est un parti qui est très conjoncturel dans la mise en avant de thématiques aussi électorales. Et donc, l'alternative arrive à très bien capter le mécontentement dans la société et d'exploiter les peurs, les angoisses, etc. Et de les transformer en capital électoral.
Un vote assumé par des partisans de l'AFD comme ceux-ci rencontrés par France 24 en janvier.
Les sociodémocrates, les écologistes du gouvernement qui jettent l'argent par les fenêtres, c'est eux qu'il faut interdire. Ils ruinent le pays et ils conduisent notre peuple droit dans le mur.
Si être d'extrême droite, cela veut dire vivre sa vie comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, à 68 ans, c'est-à-dire en étudiant, en travaillant, en payant mes impôts, sans jamais rien faire de mal, alors être d'extrême droite ou être nazi, ça ne peut pas être quelque chose de mal.
Alors des électeurs de l'AFD, alors le terme de classe inférieure a été utilisé dans cette discussion que je révoque. Je pense qu'il faut parler d'électeurs qui sont peut-être aujourd'hui ceux qui souffrent le plus de l'économie allemande, de la transformation de l'économie allemande, de la désindustrialisation allemande. On pourrait faire une émission entière sur le vote de l'AFD aujourd'hui en Allemagne. Il se trouve qu'on essaye de le relier aux élections européennes qui auront lieu en juin prochain. Hans Stark, est-ce qu'il y a des chances, des risques réel que l'AFD saute au pouvoir en Allemagne? Vous disiez tout à l'heure que le système de coalition pour l'instant l'empêche, mais est-ce que les garde-fous censés faire en sorte que des partis qui sont aujourd'hui contre le système démocratique ne puissent pas réaliser de gros scores et ne puissent pas avoir voix au chapitre, est-ce que ces mécanismes-là peuvent être enclenchés aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible que l'AFD soit interdite avant les européennes? Et non, alors ça a l'air d'être pas du tout à l'ordre du jour, étant donné la grimace que vous venez de faire.
Qu'on n'a pas vu à la radio. Non, une interdiction de l'AFD n'est pas possible, même si... Enfin, pratiquement pas concevable, même si l'Agence pour la protection de la Constitution a désigné un certain nombre quand même de leaders de l'AFD, et notamment son association de la jeunesse, les jeunes de l'AFD, comme étant authentiquement d'extrême droite. Ceci dit, c'est une procédure d'interdiction, c'est une procédure très très longue, elle est d'un point de vue juridique extrêmement aléatoire, et elle pourrait éventuellement se solder par un échec, ce qui serait une défaite politique pour les partis des républicains absolument terrible, ne pourrait que renforcer l'AFD. Enfin, une interdiction de l'AFD pourrait très bien aussi se solder par une recréation du même parti avec un autre sous un autre nom. Ça ne changera pas grand-chose en réalité. Non, il vaut mieux combattre ce parti par des arguments politiques, et d'ailleurs il recule un peu dans les sondages actuellement, donc il est passé en dessous de 20%. C'est sans doute l'effet à la la fois des manifestations de masse ces derniers mois, mais aussi donc de la montée d'un autre parti, lui aussi populiste, dont on parlera également. Je vois plutôt aujourd'hui en Allemagne, je ne vois pas la perspective d'une arrivée au pouvoir de l'AfD, ça me semble totalement exclu, et surtout un soutien de la part des chrétiens-démocrates l'est également. En revanche, ce qui guette aujourd'hui la stabilité politique en Allemagne, je termine là-dessus, c'est tout simplement l'éclatement du paysage politique parce qu'il y a de plus en plus de partis qui se créent actuellement.
Valérie Dubslaff, un tout petit mot, parce que la Cour constitutionnelle a coupé en janvier les financements d'un autre parti, La Patrie. Donc sur quel motif? Pourquoi elle ne le fait pas est-ce qu'elle peut aussi utiliser les mêmes arguments pour l'AfD?
Alors, elle pourrait effectivement, mais ça vient donc à la suite d'une longue procédure qui a duré tout au long des années 2010, donc contre la Patrie qui à l'époque s'appelait le Parti National Démocrate d'Allemagne. Donc c'était une procédure d'interdiction qui a échoué. Et donc on avait en 2017, la Cour constitutionnelle fédérale avait décidé de ne pas interdire le NPD, donc le Parti National Démocrate d'Allemagne, mais de couper les financements. Et donc là, on est un peu dans la conséquence aujourd'hui, donc on lui a coupé les financements. Alors pour l'AfD, ce serait éventuellement envisageable, mais ce serait à l'issue aussi d'une très longue procédure qui risque de durer très très longtemps. Donc c'est pas pour demain. Baby, überall Gefahr um uns. Baby, überall Gefahr non. Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt, steh ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Martin um. Ja, das Ende naht. Frag Amazon. Alle vor Angst erstarrt. Madame Tussaud. Ich häng in Caracas, in Barrios, in Gaza rum. Und erfahr nur Liebe, niemand hier bringt Marken um. Kids treten meine Statue um, doch mir egal, ich mag die Jungs. Piranhas im Aquarium. Kämpf mit Giftschlangen, Grizzlies, Joko, Klaas, Leoparden, Komodo, Varanen. Und niemand bringt Marken um. Flieg die Cessna in das Feuerball-Szenario. Meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen. Haben mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um. Flieg den Heli in das Feuerball-Szenario. Meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen. Haben mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um.
Niemand bringt Martin um, personne ne tue Martin, le vrai prénom du chanteur allemand Marteria, qui raconte ici comment il se sent imperturbable face au danger, un granit qui résiste à toute menace. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série consacrée aux stratégies des partis d'extrême droite en Europe avant les élections européennes. Aujourd'hui, Alternative für Deutschland en Allemagne, de plus en plus ouvertement néo-nazi, comme nous l'expliquions depuis le début de cette émission avec nos invités Valérie Dubslaff et Hans Stark, qui compte aujourd'hui contrer politiquement l'AfD, un nouveau parti de gauche radicale vient de se créer à la reconquête de l'Est du pays.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts.
Beaucoup de gens ne savent plus pour qui voter ou bien finissent par se tourner vers la droite, par colère et désespoir. Nous avons décidé de créer un nouveau parti parce que nous sommes convaincus que la situation ne peut pas continuer à se détériorer comme nous le voyons en ce moment. Si nous ne faisons rien, dans 10 ans, nous ne reconnaîtrons plus notre pays. Bien sûr, nous ne ferons jamais front commun avec l'AfD. Nous lançons ce nouveau parti justement pour que les citoyens qui pensent voter pour l'AfD ou qui l'ont déjà fait, non pas parce qu'ils étaient d'extrême droite, mais en désespoir de cause, et une alternative sérieuse.
Sarah Wagenknecht était membre du parti de gauche radical Die Linke. Elle a fait scission pour créer l'année dernière sa propre structure, l'Alliance Justice et Raison. L'objectif, selon elle, est de ramener la classe ouvrière et les Länder de l'Est dans le giron de la gauche. Bonjour Patrick Moreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, vous avez longtemps travaillé au CNRS, vous avez publié en janvier pour la Fondapol une note sur l'émergence d'une gauche conservatrice en Allemagne, l'Alliance Sarah Wagenknecht pour la raison et la justice. Qu'est-ce qu'elle reprochait, cette ancienne de Die Linke, à son parti d'origine?
Je dirais que les lignes de conflit étaient extrêmement nombreuses. Je pense que la principale critique en fait, qui a été faite par Madame Wagenknecht était la fixation pratiquement de Die Linke sur une problématique minoritaire, une vision identitaire du monde, c'est-à-dire qu'elle se concentrait sur les minorités et que ce, ses choix, en fait, l'avaient amené pratiquement à se couper d'abord de ce qui était son potentiel premier, c'est-à-dire dans les nouveaux Bundesländer, et deuxièmement à une réduction pratiquement de Die Linke à ce qu'on a appelé la gauche urbaine identitaire. Et la critique de Mme Wagenknecht était qu'en soi, ces minorités n'étaient pas par nature révolutionnaires ou anticapitalistes, et que la troisième dimension essentielle, c'est que fondamentalement, pour les Allemands, l'immigration était est un problème, et le premier problème avec l'inflation, et que le non-contrôle de l'inflation et le non-contrôle de l'immigration, en fait, favorisaient la montée en puissance de l'AfD.
Donc
elle a très justement vu effectivement le potentiel qu'elle pouvait atteindre.
Donc lancer un nouveau parti de gauche dans le but de proposer une alternative sérieuse, comme elle dit, à ceux qui pensaient voter pour l'AfD, en termes de programme, ça donne aussi un rejet de l'immigration.
Oui, en fait c'est pas totalement nouveau, hein. Je renvoie nos auditeurs français à Georges Marchais et sa tentative d'attaque de bâtiments immigrés, par exemple. C'est quelque chose qui a toujours existé au sein de la gauche. Mais effectivement, c'est en Allemagne quelque chose de tout à fait fondamental actuellement. Le rejet, si vous voulez, le désir de contrôler l'immigration domine.
Donc, rejet donc, aussi des questions climatiques, hein, on l'a aussi beaucoup. Alors, c'est pas vraiment de rapport, sauf que Bruxelles est souvent désignée aussi comme bouc émissaire de ces politiques-là. Qui sont aujourd'hui celles et ceux qui ont déjà rejoint le parti de Sarah Wagenknecht dans la direction du parti? Est-ce qu'elle a déjà ratissé large, Patrick Moreau?
Pas encore. La stratégie de Mme Wagenknecht, c'est en fait de construire un micro-parti et de filtrer en fait les adhésions. Par exemple, la Fédération de Saxe compte 70 personnes. C'est très très peu. En fait, elle travaille, c'est toute sa stratégie en fait de communication est fondée sur le système de l'influence qu'on appelle les influenceurs en communication, en termes de communication. Et en fait, elle essaye de mobiliser des segments différents de la société. Alors, vous avez un courant, vous avez une dialectique anti-woke qui est très forte, vous avez une dialectique tout aussi présente et tout aussi acceptée dans la population contre l'écologie de gauche, en particulier cette volonté des écologistes d'imposer un modèle de vie contraignant, je cite Mme Wagenknecht, dans le domaine de la nourriture, des transports, de l'écriture, de l'éducation. Vous avez aussi une stratégie différente qui est en fait la conquête, la reconquête, je dirais, politique du quart monde, qui fondamentalement ne vote pas ou s'abstient de manière quasiment permanente. Mais vous avez aussi un nouveau champ, et c'est lié pratiquement à sa formation d'économiste. Elle voit qu'effectivement une grande partie, je dirais, des classes moyennes sont en situation, je dirais, de mécontentement. Donc elle a en fait vu dans la société allemande toutes les zones qui étaient en crise, et en fait elle a bâti des modules idéologiques et un discours très différent selon les personnalités ou selon les groupes à laquelle elle s'adresse.
Et alors
c'est en fait une très bonne stratégie de communication.
Et alors pour les européennes, quelle liste présente-t-elle, avec quel discours, quelle Europe défend-elle?
Elle défend en fait une Europe. Là aussi, ça reste extrêmement peu clair. Il faut voir que c'est un parti qui, pour l'instant, n'a pas totalement d'idéologie claire. Et c'est tout à fait volontaire. Elle refuse le monolithisme théorique et elle veut fondamentalement, encore une fois, choisir des segments qu'elle va vouloir atteindre et qu'elle va atteindre. Elle aura vraisemblablement, au terme des élections européennes, de 5 à 7 députés. Elle fera à peu près 5% des voix. Mais en fait, son potentiel est beaucoup plus important. Et en fait, une partie de sa stratégie est de reconquérir justement ce qu'évoquaient tout à l'heure vos intervenants. C'est tous ces gens qui se sentent mal à l'aise, qui n'ont pas de parti de représentation, qui ne sont pas encore totalement engagés du côté de l'AfD, mais qui trouvent que l'AfD a raison sur la question de l'immigration ou sur la lutte contre je dirais, l'écologie de gauche. Et en fait, elle réussit en fait à communiquer avec ce potentiel, mais ce potentiel n'est pas encore complètement atteint. Donc les sondeurs, ce qui nous montre, ce que montre en particulier les sondages actuels, vous avez une extraordinaire variabilité du potentiel électoral de Madame Mulvey d'un institut à l'autre. Vous avez dans les nouveaux Bundesländer, elle peut atteindre 15-20% des voix. Dans les vieux Bundesländer, son potentiel est beaucoup plus faible parce qu'elle n'a pas encore d'organisation, parce qu'elle n'a pas encore trouver, je dirais, un langage spécifique pour l'Ouest. Donc, elle est en train, si vous voulez, de bâtir très lentement, et c'est pour ça qu'elle refuse une adhésion massive. Elle est en train de bâtir ce parti de manière très lente et, je trouve, de manière très efficace. Alors, encore une fois, elle a des potentiels de réserve du côté, évidemment, d'un certain nombre d'électeurs AfD.
Un tout petit mot pour conclure, Patrick Moreau. Quel groupe parlementaire européen souhaiterait-elle rejoindre, Sarah Wagenknecht? Parce que les positions qu'elle prend sur l'immigration ne sont pas du tout celles du groupe de la gauche, par exemple, dont fait partie, entre autres en France, la France Insoumise.
Tout à fait. Alors, ça lui pose effectivement un problème. Elle l'a dit de manière totalement claire. Elle ne cohabitera pas avec Die Linke. Donc, elle est en train d'essayer actuellement de monter, je dirais, essentiellement avec les partis, je dirais, de gauche nordique, un espèce de contre-groupe. Alors, là encore, c'est un projet qui n'est pas encore achevé. À la limite, si elle ne trouvait pas à pouvoir communiquer, ce sont en particulier aux élus qu'aura Jean-Luc Mélenchon, si elle n'arrive pas à trouver un thème commun, ben, ma foi, elle sera complètement isolée au sein de la gauche.
Merci beaucoup, Patrick Moreau. Merci d'avoir été avec nous. On met en lien sur le site de Culture Monde la note que vous avez publiée en janvier pour la Fondapol, l'émergence d'une gauche conservatrice en Allemagne, l'alliance Sarah Wagenknecht pour la raison et la justice, Hans Stark, pour rétorquer, montrer que lui conserve ses convictions d'ouverture et de soutien à l'immigration. Le parti Die Linke, donc de gauche dite radicale, a choisi entre autres candidat aux élections européennes une activiste du sauvetage en mer, Carola Rackete. Comment l'émergence de ce nouveau parti peut, quelles conséquences peut-elle avoir sur la scène politique allemande?
Pour l'instant, c'est un parti troublion. Il est à 7% dans les sondages à l'échelle nationale. Il fait un très bon score, Patrick Moreau l'a dit, en Allemagne de l'Est, mais à 7% pour un parti qui vient d'être créé, 7% à l'échelle nationale, c'est beaucoup. Il se nourrit des voix en faveur de la Die Linke, qui est maintenant tombé à 3% dans les sondages et qui va disparaître, sans doute. Et finalement, il prend aussi des voix à l'AfD. Et le recul de l'AfD dans les sondages, ils sont tombés en dessous des 20%, ils ont perdu 3% dans les sondages, est aussi dû quelque part à la montée de l'alliance de Sarah Wagenknecht. Dernier point, ce parti est aussi, c'est un parti radical pacifiste, qui finalement fait un peu le jeu de la Russie, puisqu'il est radicalement opposé à la livraison d'armes à l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, il gêne aussi quelque part le SPD, parce qu'au sein du SPD, le Parti social-démocrate, il y a quand même un volet pacifiste important, et ça peut éventuellement expliquer aussi un peu les hésitations de M. Scholz sur les questions de la livraison des taux russes.
Voilà pourquoi aussi ces résultats aux élections européennes à venir en juin prochain en Allemagne seront passionnants, très importants à observer. Merci beaucoup Hans Stark d'être venu en parler avec nous dans Culture Monde. Vous êtes professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université, conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, et vous avez coordonné avec Jérôme Vaillant un dossier spécial sur l'AfD à Paris dans la prochaine revue, le prochain numéro de la revue L'Allemagne aujourd'hui. Merci Valérie Dubslaf d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence en civilisation allemande à Rennes 2, spécialiste de l'extrême droite. Vous avez écrit dans l'ouvrage collectif Regarder autrement, paru aux presses universitaires de Rennes, un article spécifiquement sur l'AfD au Bundestag, représenter l'alternative en démocratie. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Armorique à Rennes. Je remercie Clément Bougneux de vous avoir accueilli. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce qui a retenu votre attention ce matin, Catherine, c'est l'une des plus grandes aciéries d'Europe. Elle se trouve en Italie. Deux anciens responsables sont accusés de pollution sur l'environnement.
Et c'est une poussière rouge jusque sur les tombes du cimetière de Tarente dans le sud de l'Italie qui m'a interpellée ce matin en feuilletant le Guardian. Cette poussière rouge est toxique. Ce sont des résidus de minerais de fer provenant de l'usine sidérurgique voisine qui, depuis 1965, écrit le quotidien britannique, crache des fumées nocives qui seraient à l'origine de milliers de décès par cancer. Cette usine tue tout, confirme Teresa Battista, la femme de ménage qui nettoie depuis 35 ans les tombes du cimetière où ses deux frères et de nombreuses autres personnes sont enterrées. Elles ont été victimes de la pollution. C'est une bataille aussi qui oppose l'économie à l'environnement dans le sud défavorisé de l'Italie, souligne le Guardian. La justice italienne enquête sur deux responsables de l'ancienne aciérie Ilva à Tarente, accusés, précise le journal italien La Gazzetta del Mezzogiorno et la RAI, d'avoir pollué donc l'environnement et supprimé aussi les mesures de sécurité du site. Des pics de benzène, une substance chimique cancérigène, sont enregistrés depuis des années, rappelle Il Fatto Quotidiano, dans cette usine détenue majoritairement par ArcelorMittal. Mais il y a encore urgence, selon la Gazzetta del Mezzogiorno, car un nouveau pic de benzène a été enregistré la semaine dernière, mercredi. L'aciérie, l'une des plus grandes d'Europe, est aujourd'hui au bord de la faillite. Elle a été placée en février dernier sous tutelle publique temporaire, indique le Corriere della Sera, afin de préparer une restructuration pendant que le gouvernement Meloni cherche de nouveaux investisseurs. 5 multinationales sont intéressées, explique le ministre du Commerce et du Made in Italy, cité par Il Sole 24 Ore. Mais comment le gouvernement peut-il accepter de maintenir ce site ouvert, s'insurgent les parents de Lorenzo, un garçon qui est mort d'une tumeur cérébrale à l'âge de 5 ans. L'autopsie a révélé la présence de fer, d'acier, de zinc, de silicium, d'aluminium dans son cerveau, précise le Guardian. Les lymphomes infantiles à Tarente sont deux fois plus élevés que dans le reste de la région. Et les cancers supérieurs de 15% à la moyenne nationale. Autour de cette usine, construite donc dans les années 60, sur des terres agricoles, des milliers d'oliviers ont d'ailleurs dû être détruits pour faire place à ce complexe tentaculaire qui fait presque trois fois la taille de Tarente elle-même. Pendant les premières décennies, l'usine a apporté de la prospérité à cette ville qui vivait auparavant de pêche et d'agriculture. À son apogée, l'usine produisait plus de 10 millions de tonnes d'acier par an, avec une main-d'œuvre allant jusqu'à 20 000 personnes venues parfois de régions voisines, indique le Guardian. Mais d'anciens travailleurs se souviennent d'avoir soufflé du mucus noir de leur nez. Les enfants jouaient avec la poussière, certains la retrouvant sur leur oreiller le matin lorsque les fenêtres restaient ouvertes en été. C'était comme des paillettes, se souvient le propriétaire d'un bar. Aujourd'hui adulte, nous pensions qu'il s'agissait d'un cadeau des fées, alors qu'en réalité, c'était du poison. Et cette poussière cancérigène s'est infiltrée dans la mer, détruisant pratiquement une autre activité économique vitale pour Tarente dans le sud de l'Italie, c'est la pêche.
Et pour finir, Catherine, la presse parle de la résistance des Afghanes aux talibans qui passent par le champ.
Avec ces deux femmes afghanes, deux sœurs, assises sur un tapis, elles défient effectivement les talibans en chantant sous leur burqa bleu. Nous voulions utiliser l'arme qu'ils avaient utilisée contre nous pour nous défendre contre leurs restrictions, explique-t-elle à la BBC, parlant de l'Afghanistan comme d'un cimetière où sont enterrés les rêves de milliers de femmes et de jeunes filles. Elles osent se mettre en danger dans un pays où les musiciens peuvent être arrêtés pour blasphème par les talibans. Les islamistes ont aussi menacé les radios et télévisions qui donneraient la parole aux femmes sur leur antenne. C'est ce que rapporte le journal afghan en exil 8AM Media. Ces deux sœurs, sans formation musicale, ont tout de même osé chanter sous le nom de Last Torch, dernière lueur d'espoir. Leur première vidéo, publiée en août 2021, quelques jours seulement après la prise de pouvoir par les talibans, est rapidement devenue virale sur Facebook et WhatsApp. Elles ont continué reprenant des poèmes connus, puis écrivant leurs propres textes, car disent-elles à la BBC, aucun poème ne pouvait expliquer ce que nous ressentions, d'où ce chant qui raconte que toute une vague de voix de femmes brise les chaînes et les prisons. Ce stylo trempé dans notre sang brise les flèches et les épées. Nous déchirerons les couvertures, nous montrerons nos vraies couleurs. بند زندان بشکنیم ما منقاب آدمی از روی شیطان بشکنیم آی شیطان بشکنیم Nous arracherons ce masque humain du visage du diable, chantent encore ces sœurs afghanes. Nous briserons le diable. Ces deux femmes ont dû quitter l'Afghanistan l'an dernier, comme de nombreux musiciens afghans, depuis que la musique a de nouveau été interdite par les talibans, rappelle la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, pour une rappeuse afghane exilée au Canada et qui s'est confiée à la BBC. Dans cette obscurité, il y a une lumière qui brûle encore. Last Torch, c'est donc le nom de ce duo de chanteuses afghanes. Je vous mets le lien vers leur chanson en ligne à la page de la revue de presse internationale.
Merci beaucoup Catherine Dutu. J'en profite pour dire que Radio France a mis en ligne ce week-end un podcast Outside Kaboul sur deux sœurs afghanes qui ont fui le régime des talibans et que Caroline Gillet a très longuement rencontrées.